France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h19. Moins de biodiversité, donc plus d'épidémies du genre de celles que nous subissons actuellement. La relation est-elle aussi simple? On s'interroge en cette journée mondiale de la biodiversité. Bonjour Bruno David.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du Muséum national d'histoire naturelle. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent il fallait s'y attendre à cette pandémie?
Oui, enfin, il y a plusieurs scientifiques, déjà il y a une dizaine d'années, même un peu plus, qui avaient lancé des cris d'alerte en disant attention, la manière dont on se comporte vis-à-vis de la biodiversité en général est un facteur qui risque de provoquer un jour une pandémie. Et puis ça n'a pas été vraiment entendu et donc la vie a continué comme avant et on se retrouve avec cette pandémie aujourd'hui.
Il y a quelques personnes
qui l'avaient prévu, oui.
Ça veut dire que ce n'est que le début, qu'on va en avoir d'autres et peut-être même des bien pires, parce que là, c'est pas le plus virulent qu'on ait connu, c'est pas en tout cas celui qui a la létalité la plus forte.
Non, c'est pas celui qui a la létalité la plus forte. Alors il faut quand même relativiser aussi, c'est-à-dire qu'en fait les maladies, les zoonoses, qu'on appelle maintenant les zoonoses, et maintenant tout le monde connaît le terme, c'est-à-dire le passage d'une maladie d'un animal à l'homme, c'est pas nouveau. Et il y a eu un premier pic à un moment donné, qui est simplement au néolithique, il y a 10 000 ans, au moment de la domestication, il y a un certain nombre de maladies qui sont passées des animaux aux hommes, comme la rougeole ou les oreillons. Maintenant, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'on entretient de la promiscuité avec des animaux, que ce soit des animaux domestiques élevés en très grand nombre, ou des animaux sauvages, ce qui favorise bien sûr la transmission de maladies et de nouveaux virus des animaux vers les hommes.
Oui, parce que de tout temps, l'homme a été confronté avec d'autres espèces, donc c'est pas l'homme en tant que tel qui pose problème, c'est l'homme moderne, tel que nous vivons actuellement, notre mode de vie actuel.
Oui, on peut exactement le dire comme ça. Il ne faut jamais oublier que l'homme est un animal, après tout, comme les autres. Chaque animal est particulier, bien sûr. On a bien sûr nos particularismes et nos qualités, nos défauts, comme un petit peu toutes les espèces. Mais nous sommes un animal et à ce titre-là, nous sommes la cible de pathogènes comme d'autres animaux. Et il faut savoir que plus un environnement est diversifié, plus il y aura d'espèces dans un environnement, plus cet environnement sera résistant et moins les espèces individuellement sont la cible de pathogènes.
Mais là, pour l'épidémie actuelle, on n'est pas sûr encore de son origine. Finalement, il y a l'hypothèse du pangolin, il y a celle de la chauve-souris, mais il n'y a pas encore de vérité définitive.
Oh, on est quand même assez proche d'une vérité, c'est-à-dire qu'en fait, on sait que le virus vient sans doute d'une chauve-souris, qu'il est sans doute passé par un pangolin et qu'il y a eu une combinaison entre deux types viraux, qui a fait qu'après, ça a pu se développer d'homme à homme. Mm-hmm. Donc, on a quand même une vision assez claire. Et là, c'est vraiment une promiscuité avec la biodiversité sauvage. Et il faudrait pas croire, par exemple, à ce qu'on pourrait se dire, bon, il suffit de tuer tous les pangolins et toutes les chauves-souris, puis on va être tranquille. C'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement pour nous. Les pathogènes, d'une manière générale, vont cibler les espèces qui vont avoir le plus de succès, qui vont être les espèces dominantes. En anglais, on dit « kill the winner », c'est tuer le vainqueur. Et donc, si on était tenté d'éradiquer la biodiversité sauvage, on se désignerait nous-mêmes comme l'espèce dominante, comme l'espèce vainqueur, et on deviendrait, ipso facto, la cible des pathogènes. Donc il faut faire très attention à ça, et donc il faut, la meilleure protection qu'on puisse trouver, c'est de protéger les environnements et les espèces sauvages.
Donc dans notre façon...
Et de s'en tenir éloigné.
Dans notre façon de vivre, qu'est-ce qui pose problème exactement ?
Oh, il y a trois facteurs, si vous voulez. Il y a d'abord le nombre que nous sommes sur Terre. Et plus nous sommes nombreux, en termes de probabilité, plus on va apparaître comme l'espèce dominante et donc la cible privilégiée de certains pathogènes. La deuxième chose, c'est qu'on entretient de la promiscuité avec des animaux, que ce soit des animaux domestiques en grand nombre ou des animaux sauvages. À travers la déforestation, par exemple, on va entrer en contact avec des animaux sauvages. On va faire venir ces animaux sauvages vers nous, puisqu'on aura détruit leur environnement. On va les consommer, éventuellement, ce qui a pu se passer avec le pangolin. Donc on a de la promiscuité. Et par ailleurs, on se déplace énormément, ce qui fait que quand un problème survient localement, il devient rapidement global. Et donc avec ces trois facteurs, la probabilité qu'une pandémie survienne, elle tangente 1, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement toutes les chances pour qu'une pandémie arrive. Et il y en aura vraisemblablement d'autres si nous ne changeons pas de comportement.
Et le réchauffement climatique, c'est un facteur ou pas du tout ?
Alors le réchauffement climatique est un facteur un petit peu indirect, c'est-à-dire qu'on sait très bien, parce qu'on a fait des études là-dessus, que les pathogènes en général, que ce soit des bactéries, des virus ou des parasites, sont beaucoup plus nombreux quand on se rapproche des tropiques et de l'équateur. Il y a une croissance exponentielle en nombre d'espèces de pathogènes quand on se rapproche des zones chaudes de la Terre. Donc si on réchauffe globalement la planète, cette grande diversité de pathogènes va remonter vers le nord dans notre hémisphère et on risque d'être confronté à plus de pathogènes du fait du réchauffement climatique et de la migration de ces ceintures climatiques.
Bruno David, quelles sont les solutions alors? Que faut-il faire? Vous le disiez, changer nos modes de vie, mais ça c'est bien vaste, il faut commencer par quoi?
Alors il y a un concept qui s'appelle One Health, en anglais, une seule santé pour la planète, qui dit que la santé humaine, la santé animale et la santé des environnements, c'est en fait quelque chose qui forme un tout et qu'il faut aborder de manière globale. Et la meilleure chose à faire, c'est de respecter mieux les environnements, moins faire de déforestation, se tenir plus à distance des espèces sauvages, donc pas aller sur leur territoire, ni les faire venir sur nos territoires, donc garder une certaine distance, éviter les élevages intensifs avec des animaux qui sont tous semblables les uns aux autres et qui sont dans des nombres absolument incroyables, au-delà du fait que ça génère de la souffrance animale, c'est simplement l'éviter, et moins bouger sans doute, moins faire bouger nos marchandises. Donc c'est assez banal de dire ça, mais c'est vraiment la solution, il faut qu'on arrive à infléchir nos modes de vie. Je pense pas qu'on va les changer drastiquement du jour au lendemain, mais il faut absolument qu'on aille vers une inflexion et une vraie inflexion de nos modes de vie, parce que sinon, ça va nous revenir dessus comme un boomerang et on va se retrouver de nouveau confronté avec des pandémies et avec des pandémies qui pourraient être, comme vous le disiez, plus létales que celles-ci.
Et donc, c'est une question éminemment politique, parce que les porteurs de cette transformation, ça ne peut pas être uniquement les scientifiques. C'est un sujet éminemment politique.
Non, c'est pas aux scientifiques de dire exactement ce qu'il faut faire. Les scientifiques, ils sont là pour dire voilà ce qui est en train de se passer, voilà la cause de tout cela. Mmh. Et je pense qu'il faut qu'on prenne du recul et de la hauteur et que justement on parle de santé environnementale et qu'on ne fasse pas que traiter des symptômes, mais qu'on traite les causes également. C'est ça qui est derrière le concept d'une seule santé. C'est traiter aussi les causes qui sont en amont de ce genre de problème. Et à partir de là, c'est la conscience individuelle de chacun. Chacun peut se poser la question de son comportement individuel. Et puis après, collectivement, quelles sont les règles, quelles sont les lois qu'on met en place, quels sont les modes de fonctionnement du commerce international qu'on met en place pour éviter ce genre de choses ou pour réduire la probabilité de ce genre de choses.
Il y a deux jours, la Commission européenne a dévoilé ses projets pour la biodiversité. Elle veut, par exemple, réduire les pesticides, favoriser l'agriculture biologique, protéger davantage les terres et les mers au sein de l'Union européenne. C'est un signe encourageant, alors qu'il y a un an, il y avait un rapport très alarmant sur la disparition prochaine d'un million d'espèces végétales et animales. Là, vous vous dites, cette fois, on est sur la bonne voie?
Écoutez, en tout cas, ce sont des signaux positifs. Moi, j'attends de voir comment ça va se traduire dans les faits. Mais en tout cas, il y a déjà une prise de conscience qu'il n'y avait pas il y a quelques années encore. Il y a une prise de conscience qui est en train d'émerger. Et peut-être la bonne chose, entre guillemets, hein, je relativise bien sûr, de cette pandémie, c'est que ça nous aura accéléré cette prise de conscience. Parce qu'on se rend compte que nous sommes fragiles. Il faut jamais oublier, comme je le disais tout à l'heure, que nous sommes un animal, nous sommes une espèce qui est complexe, et cette complexité nous rend fragiles. Il faut pas croire que nos technologies, nos pharmacopées vont nous sauver. On voit bien à quel point c'est difficile de mettre au point un vaccin. Bien qu'il y ait des dizaines d'équipes qui travaillent là-dessus maintenant depuis des mois.
Merci beaucoup Bruno David, directeur du Muséum National d'Histoire Naturelle et invité du 5-7 de France Inter en cette journée mondiale de la biodiversité.